Vous écoutez
RMC.
Il est 23h06, dernière heure d'after avec Daniel Riolo qui est là, Fred Hermel qui est de retour. Fred, tu es là ?
Oui.
Très bien.
Après, un petit message à la télé parce que j'ai un physique, hein, c'est pour ça.
Bien sûr, bien sûr. J'accueille nos deux invités. On va dans quelques instants détailler les conséquences footballistiques de la guerre Russie-Ukraine qui a démarré malheureusement ces dernières heures. Et vous allez voir qu'il y en a déjà pas mal. On est avec Kevin Vessière qui anime, qui a créé bien sûr le FC Géopolitique, c'est sur Twitter, qui a aussi sorti un bouquin FC Géopolitique. Salut Kevin.
Gilbert, salut Daniel.
Tu rappelles l'éditeur pour le bouquin?
Oui, effectivement, le titre du livre.
Non, l'éditeur.
L'éditeur, c'est Max Milo Edition.
Max Milo, voilà. Donc, si vous adorez la géopolitique et le foot, voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Et puis, on a également Lazare Van Paris qui devient un habitué de l'after, qui lui anime avec brio le site Football Ski, spécialisé dans le football des pays de l'Est. Bonsoir, Lazare.
Bonsoir à tous.
Salut.
Ah, les gars, donnez-nous juste 3-4 minutes pour qu'on conclue avec Fred sur le Barça, parce qu'il est, comme vous l'avez su, il est partout, Fred, à la télé, à la radio. Donc on n'a pas pu dire un mot du Barça, qui a quand même fait un gros coup, parce que gagner 4-2 à Naples, c'est pas rien.
Ah ben c'est un gros coup parce que ben ils avaient gagné à Valence, ils avaient mis une branlée à l'Atlético, donc on sait que dans certains matchs,
Barça la puissance. Back.
Barça is back. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que là vraiment, on a compris ce que voulait faire Xavi ce soir. C'est-à-dire qu'on a compris pourquoi il a fait venir Adama Traoré. Et là, on aura l'occasion peut-être de développer ça un peu plus longuement. L'évolution du Xavi joueur, de son opinion sur le football, et du Xavi entraîneur, mais ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que Xavi footballeur détestait le contre, méprisait le contre. C'est-à-dire qu'il faisait des déclarations, mais très dures, contre les équipes qui jouent en contre. Pour lui, en gros, c'était même pas du football, quoi. Et le voir aujourd'hui... Bah parce qu'il a grandi et parce qu'il a évolué et parce qu'il pense et qu'il a la responsabilité du jeu, le voir jouer en contre aussi, bah c'est pas que ça. Mais on voit très bien que ce soir, le premier but, c'est un contre parfait et il a fait venir un joueur comme Adama Traoré. J'étais le premier à dire, mais qu'est-ce qu'il vient faire au Barça ? Non, c'est parce que le Barça de Xavi n'est pas le Barça de Guardiola dans lequel jouait Xavi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un Barça qui veut ouvrir totalement l'éventail des possibilités qu'offre le football, des styles, différents styles de football. Et puis Xavi sait très bien qu'aujourd'hui, le football est quand même un football beaucoup plus basé sur la transition et que tout en gardant un certain ADN Barça avec la multiplication des passes, il faut être capable par moment de faire des transitions très rapides. Et ben là, ce soir, on a compris que ce que voulait faire Xavi, c'est-à-dire un football ouvert à tous les styles, avec notamment la possibilité de jouer le contre quand il le faut, quand on le peut, avec l'incorporation d'un joueur, j'insiste, comme Adama Traoré. Et ça, c'est une évolution extraordinaire de ce grand spécialiste, de ce grand homme du football qu'est Xavi Hernandez.
Voilà, et je rappelle que le Barça est un adversaire potentiel et de Lyon et de Monaco au tirage au sort de
Ça peut faire une belle affiche. Hein.
Ça peut effectivement faire une belle affiche. À Barça-Lyon, c'est le fameux arrêt de Grégory Coupé, rappelez-vous. L'arrêt venu de nulle part, là.
Mmh. Ah oui.
Mais ça n'avait pas empêché une déroute, hein, quand même.
Bon. Mmh. C'était sur Rivaldo, rappelez-vous. Il avait dégoûté Rivaldo. Bon, le Barça s'était qualifié quand même. Fred, rien à rajouter ?
Si, simplement, il y a encore un peu de flottement dans la défense du Barça, quand même. C'est-à-dire que c'est devant, ça commence à être très très bon. La défense, il y a encore des choses à améliorer, ça. C'est pas encore. Le Barça n'est pas encore une machine de guerre. Après, si c'est compliqué en championnat pour se qualifier, parce qu'il y a plusieurs équipes, hein, il y a l'Atlético, il y a la Real Sociedad, il y a le Betis, etc. pour les deux places qui restent derrière le Real et Séville, le Barça commence à se dire que ça peut être intéressant aussi de pouvoir rentrer en Ligue des Champions l'année prochaine grâce à une victoire en Europa League, parce que maintenant, après ce qui s'est passé sur ce match de ce soir, on va commencer à regarder le Barça comme un vrai favori pour gagner cette Europa League.
Il y a encore Séville ou le Betis, par exemple.
Oui, bien sûr. Il y a que la Real Sociedad qui a été éliminée tout à fait logiquement aujourd'hui, mais 3 sur 4 en Europa League. Le bilan espagnol, finalement, on voit que le centre de gravitation des équipes espagnoles qui a longtemps été vraiment la Ligue des Champions avec de beaux exploits en Europa League, là, il va quand même vers la Ligue Europa. Ça veut quand même dire quelque chose sur la baisse de niveau de mon football préféré.
Merci Fredo, bonne soirée.
Merci les amis, bonne nuit.
Et demain matin, si vous voulez plus de Fred Hermel, c'est dans les grandes gueules.
Oui, dès 9h.
Évidemment, il n'arrête jamais Fred. passer dans nos bureaux. Alors, Lazare et Kevin, on va bien sûr discuter des conséquences footballistiques de la guerre déclenchée la nuit dernière par la Russie qui a envahi l'Ukraine. On va faire ça un peu dossier par dossier. Démarrons par la situation du foot sur place. On a eu des témoignages sur RMC, notamment de joueurs français hein, qui jouent en Ukraine, un joueur notamment du Dynamo Kiev, qui bon bah voilà, pour l'instant c'est un peu la panique pour eux parce qu'ils sont bloqués sur place. On a vu également les Brésiliens du Shakhtar qui eux évidemment, le Shakhtar, ça fait très longtemps qu'il ne joue plus à Donetsk.
Oui.
Qui, eux, sont à Kiev, tous dans le même hôtel, avec famille et enfants, donc qui, évidemment, cherchent aussi à quitter le pays. Lazare, là, pour ce que tu en sais, de la situation sur place concernant le foot, là, il y a eu d'autres déclarations ou d'autres décisions qui ont été prises aujourd'hui ?
Ouais, alors, tout d'abord, je voulais rendre un petit hommage à Kurban Gurbanov, l'entraîneur de Karabakh dont vous avez évoqué tout à l'heure.
Oui.
On l'avait fait avec le podcast avec Nico,
tout
où on
fait.
Avait évoqué que c'était un grand entraîneur et un grand homme, et je pense qu'il l'a encore prouvé aujourd'hui avec sa décision. Et donc, c'était un peu pour dédramatiser la situation. Pour revenir à ce qui nous intéresse sur l'Ukraine, effectivement, on a une situation où on a des joueurs étrangers qui souhaitent partir. Donc, tu as évoqué les Brésiliens. Il y a aussi le cas de Dezerbi, l'entraîneur de Donetsk. Et de l'autre côté, on a Luchescu, qui est un vétéran du championnat ukrainien.
Luchescu, qui est désormais entraîneur du Dynamo Kiev.
Qui est là-bas depuis des années maintenant.
Après avoir monté ce mythe au niveau de Donetsk, il s'occupe de redresser la barre avec succès pour Dynamo. Et lui a fait, non, moi je reste. On est tous dans le même bateau. Je vais pas partir maintenant, et donc c'est encore ce qu'il avait déjà fait à l'époque quand il était à Donetsk, et il récidive, et c'est encore une fois quelque chose de magique et de très respectueux pour sa part. À côté de ça, le championnat est stoppé pour 30 jours pour l'instant, ce qui est le minimum, et on verra comment la situation va évoluer pour la reprise du foot sur place. Et on peut s'attendre à ce que les stades soient attaqués comme d'autres points d'infrastructure. Ce qui est malheureux parce que quand on voit l'argent qui a été mis pour l'euro à l'époque, ils ont quand même parmi les plus belles infrastructures d'Europe de l'Est. Et c'est vraiment dommage de se dire que toutes ces infrastructures vont peut-être être détruites.
Le stade de Donetsk où la France a joué à l'euro 2012, hein, rappelez-vous, est déjà inopérant depuis 2014.
J'étais allé le visiter,
Depuis 2014, le Shakhtar Donetsk ne joue plus là-bas. Donc après, ils ont joué à Lviv et puis depuis 2020 à Kiev.
Donbass Arena.
Mais là, Donbass Arena, elle est abandonnée.
Ah, c'est pas détruit, hein, mais ça a été endommagé par des bombardements et du coup, c'est inutilisable depuis.
Tout à fait.
Et puis surtout, la région n'est pas sûre. Tu peux pas non plus amener des équipes internationales à Donetsk aujourd'hui.
Bon, donc c'est
un territoire qui est revendiqué par des indépendantistes. Tu n'y accèdes pas facilement. Encore moins. Donc, c'est une région instable par nature. Donc, tu peux pas avoir des matchs internationaux sur place.
Alors, ça, c'est la situation en Ukraine. Alors, évidemment, on souhaite que tout se passe bien pour ces jours et pour tout le monde sur place. Mais aujourd'hui, il y a eu déjà des réactions en cascade, notamment les fédérations qui sont censées aller jouer en Russie les fameux matchs de barrage de qualif à la Coupe du Monde, là. Et ça, c'est dans un mois, Kevin.
Oui, ça, c'est. Donc, il y a la fédération polonaise, suédoise, de République tchèque aussi. On fait un communiqué commun, donc c'est quand même une décision assez forte, et qui ont dit qu'ils n'allaient pas jouer en Russie pour les matchs de barrage pour effectivement la Coupe du Monde, parce qu'ils sont dans le même tableau. Et effectivement, bah là, ils ont pris cette décision compte tenu du conflit qui a lieu en ce moment, donc décision assez forte. Et puis on voit que après, voilà, c'est pas en football, mais il y avait le Barça Basket qui avait pris aussi cette décision, qui joue effectivement demain contre Saint-Pétersbourg. Et puis, ils jouent aussi dimanche contre Moscou. Donc, je pense qu'effectivement, peut-être que les décisions de ce type vont s'accumuler pour ne pas aller jouer en Russie.
Dans le basket, ça allait un petit peu plus vite. Et effectivement, bon, là, le Zénith est donc éliminé. Mais je crois qu'il n'y a plus d'équipe russe engagée en Coupe d'Europe. Là, c'est terminé.
Il y avait le Zénith encore, là.
Oui, mais ils ont perdu, donc c'est fini. Mais si jamais une équipe était qualifiée. Vu la tournure que c'est en train de prendre.
Non, mais en fait, la vérité,
il est fort probable que plus personne n'aurait voulu ni jouer contre eux. Je pense que l'UEFA les aurait exclus.
L'UEFA peut tout à fait décider d'un boycott.
Mais je pense que c'est ce qui va se passer.
Russe, en fait.
Il n'a plus lieu d'être parce que les équipes sont éliminées. Dans le basket,
non, mais l'équipe nationale, ça peut leur coûter la Coupe du Monde de Qatar.
L'équipe nationale, je pense que les équipes l'UEFA et la FIFA vont en fait bannir la sélection.
Oui, là, c'est la FIFA en l'occurrence.
Tu ne joueras plus contre eux. Et on l'attend, la décision, mais elle est évidente. La Ligue des Champions, la finale ne se jouera pas à Saint-Pétersbourg.
Ouais, après, effectivement, il y a
cette, pour ça.
Ah ouais, ça se décide demain.
Hein. Demain, avec le comité exécutif de l'UEFA. Après, c'est vrai que l'UEFA et la FIFA, sur ce genre de questions, sont en général assez prudents. Ils sont toujours sur l'aspect, la ligne football. Le football n'est pas politique. Et... Mais c'est vrai que les pressions sont tellement importantes que, effectivement, je pense qu'il y aura une décision. Et puis, on peut faire le parallèle, par exemple, avec un précédent qui était en 92 avec la Yougoslavie, qui était qualifiée pour l'Euro. La Yougoslavie, donc l'État yougoslave, avait bombardé la Bosnie-Sarajevo. Et l'ONU avait pris une résolution pour interdire effectivement la participation des équipes yougoslaves aux différentes compétitions sportives. Et là, la Yougoslavie a été suspendue de l'Euro.
C'est un précédent, effectivement, que tu as raison.
Ça avance quand même beaucoup, hein, messieurs. Parce si on prend le comité exécutif de l'UEFA, on va retrouver donc, le président de la Fédération russe, qui n'est autre que l'un des boss de Gazprom. Donc à partir de là, où on a quelqu'un avec une double casquette, sachant que Gazprom... C'est la ville, Saint-Pétersbourg, c'est la ville Gazprom par excellence. Mmh. Qu'on a Gazprom sur à peu près tous les événements, qui est le sponsor principal de la Ligue des Champions.
Exactement.
S'avancer pour dire que demain, le football russe est banni, que Saint-Pétersbourg n'accueille plus d'événements de cette trempe.
Oui, tu veux dire que ce ne sera pas si simple.
Un peu fort.
Ouais.
Oui, il y a quand même des et même aujourd'hui, on est quand même sur un engagement politique.
Mais je comprends pas ce que tu veux dire, Lazare. C'est bizarre que tu as un doute sur le fait qu'on aille jusqu'à ces sanctions-là.
On a quand même un engagement politique beaucoup moins affirmé de toutes les grandes organisations internationales aujourd'hui par rapport à ce qui a pu se faire dans les années 80 ou même 90.
Très, très honnêtement, au vu de la situation, la réaction des gouvernements face à ce qui se passe, je ne vois pas Gazprom ou pas Gazprom, intérêt financier ou pas intérêt financier, l'Europe faire la moindre concession et ne pas opérer un boycott général. Je ne vois pas comment il peut en être autrement. Schalke a déjà annoncé qu'ils retiraient leur pub Gazprom des maillots. Argent ou pas argent, là je pense que ça va aller au-delà et que l'intervention des gouvernements va faire en sorte que nous ne soyons plus liés dans un futur dont la temporalité reste à déterminer avec la Russie. On n'ira pas jouer là-bas, il n'y aura plus d'échanges avec eux, et qu'ils donnent de l'oseille ou pas de l'oseille. Déjà, regardez ce qui est, je pense que vous êtes au courant, Abramovitch déjà, qui est un proche de Poutine. Il faut voir ce qui va se passer en Angleterre, mais Boris Johnson.
Abramovitch, ça fait un moment qu'il ne peut plus aller en Angleterre déjà.
Ok, Boris Johnson.
Il est revenu grâce à un passeport portugais.
Là aussi, à suivre ce qui va se passer de ce côté-là.
Mais effectivement, aujourd'hui, c'est Marina qui gère le club. Ouais. Donc ça ne devrait pas, dans l'immédiat, pour la gestion du club de Chelsea, ça va avoir un impact mineur.
Alors, Kevin, on va parler de Schalke dans quelques instants, mais juste Johan Crochet nous écouter. Et Johan, tu as quelques précisions sur Dezerbi, coach du Shakhtar.
Oui, rebonsoir. J'ai eu des nouvelles du staff de Dezerbi. Effectivement, ils sont dans un hôtel parce que le club leur a demandé de venir dans un hôtel. Enfin, je parle de tous les joueurs, de l'ensemble des joueurs, du staff, etc. Pour être en sécurité, ils ont interdiction de sortir. Et aujourd'hui, ils espéraient rejoindre la frontière polonaise en voiture. Mais le problème, c'est que c'est assez loin, c'est je crois 700 km à peu près, et il y avait plus d'essence nulle part. Et donc pour le moment, ils attendent des nouvelles de l'ambassade d'Italie et du ministère des Affaires étrangères, parce que Dezerbi l'a dit, ça il l'avait dit publiquement dans la presse italienne là ces dernières heures. Lui, il voulait pas quitter le Shakhtar avec son staff tant qu'il y avait pas des contraintes sportives. La contrainte étant arrivée, c'est la suspension du championnat. Lui, il voulait les rester avec ses joueurs parce que lui, il le dit, moi je suis venu pour du foot et j'ai envie de faire ça. Là, le problème, c'est que le championnat étant arrêté, maintenant ils ont tous les joueurs comme le staff, etc., envie de partir, mais la situation étant compliquée, plus d'essence nulle part, l'espace aérien est fermé, donc c'est un petit peu compliqué. Ils attendent maintenant de voir s'il peut y avoir des vols organisés par différentes ambassades pour quitter l'Ukraine.
Merci Johan pour ces précisions.
Bonne
soirée pour de bon cette fois. On parlait d'Abramovitch. On va parler de Ribolovlev dans quelques instants parce qu'il pourrait y avoir des conséquences aussi directes chez nous sur le foot. Mais d'abord Schalke, Kevin. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Schalke.
Bon, au niveau de Schalke, c'est qu'ils ont retiré le sponsor au niveau de leur maillot qui est Gazprom. Et du coup, la grande société russe du gaz. Après, par contre, ce qui est vrai, c'est que Schalke, qui est maintenant un club de Bundesliga 2, dépend en grande partie de ce sponsor qui leur verse quand même 10 millions d'euros par an, quand on sait que Schalke est quand même un club qui est quand même assez endetté. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce logo qui a été retiré du maillot. Mais par contre, est-ce qu'ils vont se couper de tout lien avec leur principal sponsor, sachant qu'ils sont déjà en situation financière difficile? Ça reste à voir. Après, effectivement, comme on peut le voir, effectivement, pour les autres décisions par rapport au football, je pense que c'est d'abord des décisions qui vont se prendre à un autre plan au niveau international et politique, avant que ça impacte effectivement les décisions du football.
Par exemple, l'UEFA et la FIFA risquent d'attendre d'éventuelles sanctions pour s'aligner, peut-être.
C'est vrai que
jurisprudence Yougoslavie.
Pas que, parce que effectivement ça remonte à loin, comme on a pu le dire, mais quand on a pu le voir par le passé avec la FIFA et l'UEFA, en général c'est pas eux qui étaient les fers de lance de sanctions à ce niveau-là. Et donc effectivement, je pense que plutôt ils vont attendre qu'il y ait d'éventuelles sanctions qui commencent effectivement à s'accumuler pour prendre des décisions fortes à ce niveau.
Il y a autre chose sur Schalke, c'est qu'il y a un administrateur du club qui a dû démissionner parce qu'en fait c'était le PDG allemand de la société d'exploitation du gazoduc Nord Stream 2 qui relie la Russie à l'Allemagne. Ce gars-là, il y a des liens très forts avec la Russie, il a dû démissionner aujourd'hui de son poste d'administrateur de Schalke. C'est arrivé vite quand même en Allemagne. Là-dessus, il y a des décisions rapides. Maintenant, tout de même, effectivement, il pourrait y avoir aussi des sanctions, et ça a été annoncé ce soir par le ministre des Affaires étrangères en France, contre Vladimir Poutine et les proches de Vladimir Poutine. On sait qu'en Russie, les oligarques sont à peu près tous très proches de Vladimir Poutine. Que va-t-il se passer, par exemple, avec Ribolovlev, qui détient le club de Monaco? On peut se poser la question. Est-ce que demain, la France peut dire, attendez, on gèle les avoirs? Je veux dire, c'est terminé.
Mais la France peut tout à fait faire ça, et si ça sera pas décidé au niveau des instances du foot, ce sera décidé par le gouvernement. Si elle la riposte, puisqu'elle ne peut pas être militaire sur le terrain, doit être à tous les niveaux de sanctions économiques, ça peut être de dire à un russe oligarque, en l'occurrence Ribolovlev, alors il n'est pas en France, il est à Monaco.
Voilà, c'est la nuance.
Petite différence quand même. Mais imaginons qu'il soit.
J'ai du mal à imaginer que Monaco ne suive pas les décisions françaises.
Dire, on vous retire vos papiers, vous ne pouvez plus être en France. C'est fort possible, et ça probablement, ça risque d'être des. C'est ce que j'ai moi cru un peu comprendre dans ce que disait Boris Johnson des oligarques qui sont à Londres. Si vous ne pouvez plus revenir en Angleterre, on ne vous accorde plus les visas, les papiers. Vous n'êtes plus les bienvenus dans notre pays.
Lazare Van Paris.
Après, sur Ribolovlev, il a quand même un passeport chypriote aussi. Et beaucoup de ces oligarques ont un passeport chypriote. Et ce qui fait que pour beaucoup d'entre eux, ça va être aussi compliqué du coup de les sanctionner sur tous les niveaux de ce côté-là. Et en dernier point sur Ribolovlev, il part de Russie parce que justement, il n'est plus non plus en odeur de sainteté auprès de la cour de Vladimir Poutine.
Donc c'est un cas un peu particulier alors, peut-être Ribolovlev.
Aujourd'hui, je le voit pas forcément comme l'un des premiers. Il fait pas partie du premier cercle en tout cas. Il fait pas partie des initiés. Autant quelqu'un comme Abramovich est connu comme un financier de Poutine, de son premier cercle. Autant d'autres propriétaires de clubs de football en Russie font partie de ce premier cercle. Autant Ribolovlev aujourd'hui, il s'est quand même très éloigné de la Russie et de Moscou.
Alors, juste précise, parce qu'on dit qu'Abramovic a un passeport portugais, Ribolovlev un passeport chypriote, ces gens-là multimillionnaires ont la possibilité, en payant très cher, d'acheter ces passeports, en fait. Malte aussi permet d'acheter les passeports très très chers, donc ça leur permet du coup de voyager un peu partout avec plus de facilité qu'avec le passeport russe, qui n'est pas forcément évident. Kevin.
Non mais c'est ça, mais après effectivement comme ça a pu être évoqué, je pense que là tous les États cherchent un petit peu des moyens d'atteindre la Russie et Poutine, et effectivement ceux qui sont le plus visibles, et en particulier les oligarques, effectivement il y a déjà Poutine qui a fait une réunion après sa déclaration au niveau des principaux oligarques russes pour expliquer sa décision de pourquoi est-ce qu'il attaquait l'Ukraine. Et donc c'est vrai que la facilité qui va être d'abord faite, ça va être effectivement d'attaquer l'oligarque, les oligarques russes, d'attaquer aussi ces sources de financement qui peuvent impacter la Russie avant d'arriver à une escalade militaire sur le terrain.
Bon, voilà la situation ce soir. On a oublié quelque chose, Lazare ?
Non, on peut rendre un hommage à certains clubs aujourd'hui, comme par exemple Slavia Prague, qui s'est affiché lors de l'échauffement avec un maillot pour soutenir l'Ukraine, ou d'autres joueurs qui ont été qui ont aussi eu un message de soutien à l'Ukraine et qui n'ont pas forcément été bien reçus par l'UEFA. Et de la même façon,
en général, l'UEFA sanctionne ce genre de choses-là. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer là aujourd'hui.
Et de la même façon, il y a eu plusieurs joueurs russes. On peut penser à Smolov, l'attaquant de la sélection nationale, qui a mis un message très tôt ce matin sur Instagram pour dire non à la guerre. Et donc, on voit qu'il y a quand même une partie de l'opinion russe qui ne suit pas les décideurs politiques.
Oui, et ce soir, il y a des manifestations dans les principales villes de Russie contre la guerre.
Exactement, Moscou.
Ben c'est important. Quand l'opinion ne suit pas.
Alors, attention, c'est des manifs, mais il faut voir de quelle ampleur. Si c'est minoritaire, je ne sais pas.
C'est déjà quelque chose.
Il y a des manifs.
Poutine n'en a certainement rien à cirer. Rien à cirer de l'opposition en général. Mais c'est toujours un autre.
Il y a eu des arrestations d'ailleurs lors de ces manifs, on a vu ça. Kevin, un truc à rajouter ?
On a vu différentes prises de position. On a vu effectivement Chevchenko ou même Zinchenko poster sur les réseaux sociaux, et on voit effectivement que les sportifs vont encore être des bonnes caisses de résonance pour se mobiliser sur ces questions-là. Dans d'autres sports, effectivement, on a pu voir que Vettel ou Verstappen n'allaient pas au Grand Prix de Russie. Donc effectivement, voir que les sportifs vont aussi avoir dans leur rôle d'influenceur.
Ça m'a échappé. Ça, Verstappen a dit j'irai pas.
Oui, effectivement, ouais, avec Vettel, ouais, tout à fait.
Bon. Vettel l'a dit, Verstappen a suivi.
Merci messieurs, c'est voilà ce qu'on peut dire ce soir. Je pense que là, évidemment, les choses vont évoluer dans les jours qui viennent.
Je pense qu'on est qu'au début et que les conséquences et les bouleversements vont être très nombreux. Oui.
Merci Lazare, je renvoie à Football Ski. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur le foot de tous les pays de l'Est, c'est complet et c'est très bon. Kevin, bien sûr. J'ai vu que tu faisais un truc avec France Info, dis donc. La chaîne de télé ?
Ouais, ça, c'est depuis janvier. On fait des chroniques sur les histoires un peu, comment dire, sport et géopolitique. Et bah là, on est en plein dedans, quoi. Donc.
Exactement. Bon, bah écoute, on te retrouve un peu partout. Ça se développe, c'est bien, bravo.
Voilà.
Merci d'être passé dans l'after, Kevin. Donc, FC Géopolitics sur Twitter.